Okay, thank you very much. Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, donc bienvenue à la présentation des résultats semestriels de 2021 du groupe Lumibird. J'aurai le plaisir de faire cette présentation donc avec Jean-Marc Gendre, donc directeur délégué du groupe, donc Aude Nomgongouan, qui est secrétaire générale, directrice financière donc administrative donc du groupe Lumibird, et Pierre Valalta, donc conseiller en stratégique en finance. Alors vous avez ici le sommaire sur cette page nous allons commenter en fait donc en premier lieu la solide performance du groupe sur le premier semestre dans un contexte de reprise. Vous aviez déjà vu en fait les résultats du chiffre d'affaires en fait sur S1 qui nous permettent d'avoir une belle performance financière sur S1. Donc on vous expliquera le détail. Ensuite nous passerons en fait à une analyse un petit peu plus détaillée en fait des résultats par division, division photonique et la division médicale. Nous parlerons de l'intégration des différents projets que nous avons finalisés dont Elex, qui nous permettent aussi en fait d'avoir une contribution très significative à la rentabilité du groupe. Et ensuite nous finirons par une partie stratégie et perspective. Alors pour rappel, un slide que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous. Rappel en fait des performances financières en fait de l'année dernière, un pro forma 2020 qui s'établit à un chiffre d'affaires de 146,7 millions d'euros, avec des effectifs d'un petit peu plus de 870 personnes aujourd'hui, 82% du chiffre d'affaires à l'export, une présence très internationale, à la fois en fait sur la partie commerciale, nous avons des filiales dans à peu près tous les continents et des distributeurs ce qui nous permet d'avoir une présence dans plus de 110 pays et également en fait 9 sites de production et de développement répartis un petit peu partout dans le monde. La répartition du chiffre d'affaires est de 53% en 2020 pour la partie médicale, qui s'établit à 77,9 millions d'euros, sur la partie photonique, 47%, 68,8 millions d'euros. Mon introduction. Sur la slide suivante, je vais laisser commenter Jean-Marc sur la performance du chiffre d'affaires du premier semestre.
Merci Marc, bonjour à tous. Donc un résumé assez simple des choses qu'on vous a présentées lors de la publication du chiffre d'affaires. Donc bien sûr un chiffre d'affaires en croissance, 65%, mais on se rappelle du pro forma, plus 13% pro forma par rapport à l'année 2020. Une croissance qui est aussi bien poussée par les activités photoniques que par les activités médicales. Et puis à droite, on va regarder les points importants. Donc une croissance organique sur le premier trimestre, comme précisé à 13%, qui est à 16% à change constant. Ça, c'est un point important. Et dessous, on s'aperçoit que l'activité scientifique et industrielle progresse, pas loin de 40% en pro forma. On a une très, très forte activité aujourd'hui de nos ventes vers les intégrateurs, que ce soit dans l'OIM médical, que ce soit pour les écrans plats. Derrière ça, pareil, une activité défense spatiale qui est à un double chiffre de croissance, c'est-à-dire 18% en pro forma. On a neutralisé l'impact du contrat mégajoule dont on a souvent parlé, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui a pris le relais. Et donc ça, c'est une performance intéressante. La performance de la division LIDAR. Alors, à l'intérieur de ça, il y a différents segments. On s'aperçoit qu'il y a des aspects positifs. Aujourd'hui, c'est le retour en développement pour toute une nouvelle génération de produits ADAS de LIDAR pour pour la DAS. Donc là, le marché rebondit. Et à l'intérieur de ça, on a aussi alors quelque chose qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est la contraction des ventes des systèmes LIDAR. Mais on s'aperçoit que les carnets de commandes progressent, mais on a beaucoup de retard d'approvisionnement. La division médicale, aujourd'hui 16% de croissance si on s'appuie sur le chiffre d'affaires hors contrat exceptionnel et certains effets taux de change. Et on reparlera tout à l'heure d'intégration de nos deux dernières acquisitions, que ça soit Elex, dont on a beaucoup parlé, mais également l'acquisition d'Esmed, qui était notre distributeur en Suède et qui nous a permis de construire l'Umebird Medical Nordics, qui contribue aussi sur le premier trimestre à une bonne performance. Les nouvelles synergies commerciales, on a aujourd'hui dans le domaine du glaucome notamment une gamme complète qui nous permet de nous positionner comme un des leaders dans ce domaine, d'autant plus renforcé par les dernières recommandations de l'AGS, qui le European Glaucoma Society, qui présente nos solutions comme une première ligne de traitement. Et derrière chose, bonne nouvelle aussi du Japon, avec l'homologation de notre dernier échographe qui nous permet d'aller taquiner le deuxième marché mondial. Et ça, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc après ce résumé relativement simple de l'activité du premier semestre, on va rentrer plus dans le détail de la performance des résultats et la contribution des deux divisions. Et là, je vais laisser Aude présenter les résultats.
Merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Pour commencer cette présentation des résultats financiers, déjà un point sur l'effet marquant qu'on peut résumer, synthétiser en trois grands thèmes. Donc le retour à la croissance du chiffre d'affaires. Je ne vais pas faire une redite ou paraphraser ce qu'a très bien dit Jean-Marc. Un chiffre d'affaires à 4 millions d'euros, en croissance de 65%. Contribution des activités historiques, et sur ce point, effectivement, par rapport à 2020, les activités historiques, c'est-à-dire le périmètre constant hors les croissances externes réalisées en 2020, progresse de 30%, sachant que l'année 2020 était une année un peu particulière, même très particulière, du fait de la crise sanitaire. On s'est intéressé à voir finalement le trend de croissance depuis l'année 2019, donc une année plus normative, et cette croissance est bien là, elle est de 15%. Et bien évidemment, le périmètre des nouvelles activités, les croissances externes réalisées en 2020, contribue évidemment significativement à la croissance du groupe, de l'activité du groupe, et le chiffre d'affaires réalisé par ces activités représente aujourd'hui, sur le premier semestre 2021, plus de 20% du chiffre d'affaires total du groupe. Ce retour à la croissance s'accompagne d'une amélioration continue de la rentabilité. De la rentabilité opérationnelle courante. Le ROC s'établit à 8,6% versus 2,9% sur la même période l'année passée, et on constate également, donc cette augmentation en valeur s'accompagne également d'une augmentation en pourcentage du chiffre d'affaires. Cette amélioration est portée par l'amélioration de la rentabilité d'exploitation, de l'excédent brut d'exploitation, celui-ci passant de 16,7% du chiffre d'affaires à 19% du chiffre d'affaires, et s'accompagne, se traduit par une amélioration de la capacité du groupe à financer ses opérations et au travers de l'amélioration de sa marge brute d'autofinancement. Troisième élément marquant, qui est un élément structurant de notre groupe, une situation financière qui est solide. Je rappelle que l'endettement financier net est maintenu à un niveau inférieur à 10 millions d'euros, et que le groupe a à fin juin une trésorerie active de 80 millions d'euros, à peu près le même niveau qu'à la fin de l'année dernière. Et cette situation financière solide est au service du modèle de croissance. D'une part, dans l'investissement dans le cœur de métier du groupe, et donc dans l'innovation, les investissements en recherche et développement sont maintenus. Aujourd'hui, sur le semestre, le groupe engage sur ses activités de recherche et développement environ 7 millions d'euros, dont un peu moins de 4 millions ont été activés, donc mis à l'actif au bilan, donc financés sur ses fonds propres, pour du développement de projets et puis d'innovation, et 3 millions, un peu moins de 3 millions, qui est donc financé par des projets clients. Deuxième élément de ce modèle de croissance, c'est la stratégie de croissance externe. c'est les activités, c'est les opérations SAB et les opérations SILAS. On aura l'occasion d'y revenir. Si ces faits marquants se traduisent en chiffres, en compte de résultats, par le tableau que vous voyez, donc l'extériorisation par le groupe sur le premier semestre 2021 d'un résultat net de 5,1 millions d'euros, 6,7% du chiffre d'affaires, en forte croissance par rapport à celui dégagé au premier semestre 2020. Il traduit d'une part la contribution de ce nouveau périmètre, ces croissances externes réalisées en 2020, qui sont effectivement significatives désormais sur les résultats du groupe. Je l'ai dit, le chiffre d'affaires est supérieur à 20% du chiffre d'affaires du groupe. L'excédent brut d'exploitation dégagé par ces activités représente plus de 20%, 22% exactement, de l'excédent brut d'exploitation du groupe. Cette contribution intègre déjà les effets des synergies liées au rapprochement des deux groupes de la branche médicale, Quantel Médical et puis Elex. À titre d'information, le résultat opérationnel courant du premier semestre 2020 des activités Elex en pro forma s'élevait à 7,1% du chiffre d'affaires, quand aujourd'hui, donc un an plus tard, nous dégageons 12%. Et en termes de BE, le ratio, cette progression est également visible, puisque le taux de BE pro forma sur le premier semestre 2020 des activités était de 12,2% et aujourd'hui on affiche 17,6%. Donc, des nouvelles activités qui contribuent, qui intègrent des effets d'énergie, donc qui sont relutifs, mais également un périmètre historique dont la contribution est croissante, tant en chiffre d'affaires, je ne reviens pas sur ce point, on l'a déjà évoqué, mais également en termes de rentabilité. Le ROC de ces activités, donc résultat opérationnel courant de ces activités dites historiques, on va appeler ça périmètre constant, au sens des normes de consolidation, s'élève à 6,7 millions d'euros, en croissance de 30%, de près de 30%, dans la même proportion que l'évolution du chiffre d'affaires. On aura même un petit peu plus parce qu'on est plus près des 31% pour l'évolution du ROC, ce qui traduit finalement la capacité du groupe à maîtriser, dans un contexte de forte croissance, ses charges opérationnelles. Et ce point, est peut-être mieux illustré encore sur le transparent suivant, où nous avons essayé de vous présenter, synthétiser l'évolution de cette rentabilité opérationnelle courante par grande nature, par grand poste, le composant. Donc, hors les croissances externes, l'évolution et l'augmentation, l'amélioration du résultat opérationnel du groupe sur le semestre est essentiellement portée par l'amélioration de la marge brute. Donc à périmètre constant, cette marge brute étant elle-même boostée essentiellement par des effets volume, ce que vous voyez dans le tableau de droite. Le pincement sur le taux de marge, léger pincement sur le taux de marge à date, est essentiellement lié, et surtout lié, toutes divisions confondues, par un mix des gammes à l'intérieur des produits qui sont vendus dans ces deux divisions. Cette évolution de la marge à périmètre constant, plus 7,7 millions d'euros, s'accompagne également de deux choses. D'une part, d'une évolution des charges de personnel, là aussi on verra sur les deux divisions, qui traduit essentiellement, d'une part, l'effort de structuration des équipes d'encadrement du groupe pour justement encadrer et dynamiser cette forte croissance. On parlera du COMEX, mais bien sûr, il n'y a pas que le COMEX. L'encadrement se joue à plein de niveaux. Et également, deuxième élément dans cette évolution des charges de personnel, le renforcement des équipes commerciales et l'effet également induit de la croissance de l'activité sur les commissions versées à ces équipes commerciales. Donc, troisième élément dans l'évolution du ROC, l'évolution des charges externes nettes. Donc, en net sur la période, on voit une diminution des charges externes nettes de 0,2 millions d'euros. Cette évolution intègre pour un montant de 1,2 millions d'euros la conversion des prêts, ce que j'ai appelé des prêts Covid américains qui ont été octroyés l'année dernière, donc qui étaient en dette financière, et qui ont été convertis sur 2021 en subventions d'exploitation. Les sociétés américaines du groupe bénéficiant des conditions de cette conversion. Et de fait, on est passé de prêt à subvention ou avance non remboursable. Mais nonobstant cet effet ponctuel des subventions Covid, les charges externes nettes, donc l'évolution des charges externes nettes de moins 1 million, est parfaitement maîtrisée au regard de l'évolution importante de l'activité. Donc le groupe reste très focalisé sur la maîtrise de ces charges externes. Si on veut analyser plus en détail par division l'évolution de ce ROC, je vous propose de passer au transparent suivant. Sur ces deux divisions, on retrouve les mêmes éléments d'explication et donc chacune des divisions contribue au résultat et contribue à l'amélioration des résultats du groupe. On retrouve les évolutions de marge brute, les évolutions des charges de personnel et des charges externes nettes. Deux éléments, je dirais, de commentaires ou d'analyse complémentaires par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. D'une part, dans l'évolution des charges de personnel, la division photonique supporte les coûts, enfin l'essentiel des coûts de structuration au niveau corporate, donc ce qui explique le fait que la variation des charges de personnel est plus importante dans cette division. Et également, s'agissant des charges externes nettes, la division médicale supporte, elle, une plus forte part de l'augmentation des charges externes nettes, et ceci est lié à la reprise finalement, au desserrement des conditions Covid et donc à la reprise d'un certain nombre de dépenses de marketing. Et également, toujours dans le cadre de cette reprise d'activité, l'augmentation des commissions versées à nos distributeurs dans le cadre des opérations qui passent par les réseaux de distribution. Donc, en conclusion de cette partie d'analyse sur les éléments de ROC, une forte contribution au résultat des deux divisions qui conduisent à une forte génération de ROC pour le groupe. Entre le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel, petite particularité française, c'est ces deux niveaux de résultats, on a quoi ? On a trois éléments majeurs. D'une part, les coûts liés au regroupement d'entreprise, qu'on a appelé coûts effet de périmètre sur le transparent. Il s'agit de l'ensemble des dépenses qui sont engagées par le groupe pour réaliser ou préparer des opérations de croissance externe. Donc, elles se sont élevées à 200 000 euros sur ce semestre, 800 000 un an plus tôt. Donc, l'année dernière, nous avions l'opération Elex. Cette année, on n'est plus sur les opérations SAB et SILAS. Deuxième élément, je dirais, significatif entre le ROC et l'euro, les résultats de cession d'immobilisation incluant les mises au rebut d'immobilisation, donc c'est le jeu naturel de l'analyse à la fois des immobilisations corporelles mais également des projets, certains projets dont on aujourd'hui, du fait des rapprochements de groupes, conduisent à des mises au rebut d'un certain nombre de projets anciens pour effectivement repartir sur des projets plus innovants aujourd'hui, donc avec un niveau de charge de l'ordre de 300 000 euros cette année, peu ou prou le même montant que l'année passée, et puis d'autres charges diverses qui sont non récurrentes par essence et qui sont significatives en montant. Bon, sur ce premier semestre 2021, nous n'en avons pas supporté. Ce qui conduit le groupe à générer un résultat opérationnel de 8 millions d'euros. S'agissant du résultat financier, l'évolution de celui-ci, donc une augmentation des charges financières nettes de 600 000 euros, cette évolution est parfaitement en lien avec finalement la hausse du quantum de la dette, donc de la dette financière brute moyenne, dans un contexte où le groupe, par sa stratégie financière, continue à stabiliser son taux annualisé de la dette, qui est de l'ordre de 2%. Toute dette confondue, dette financière, dette bancaire, obligataire, dette de location. Et compte tenu de l'évolution donc, des impôts, le groupe, je l'ai dit, extériorise un résultat de 5,1 millions d'euros. S'agissant du bilan maintenant, très rapidement, une photographie du bilan pour vous donner une idée des masses au bilan, étant entendu que finalement, un point que je souhaite signaler sur ce slide, c'est la structure financière du groupe, en insistant particulièrement sur le niveau fort des capitaux propres, donc 169,8 millions d'euros, presque 170 millions, ce qui est plus de la moitié du total bilan, à mettre en regard d'une dette financière nette dont je vous le disais en introduction, est maintenue à un taux inférieur à 9,8 millions d'euros. Donc, un gearing qui laisse une belle marge de manœuvre pour le groupe, pour son développement et ses activités futures. En termes de flux, je pense qu'il est plus parlant de regarder le tableau de flux hein, qui explique finalement la variation du bilan entre les deux positions étudiées. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce transparent? D'une part, une capacité du groupe à développer, à faire croître ses cash flows opérationnels. Le groupe génère une marge brute d'autofinancement de 14,5 millions d'euros en progression. Donc, elle convertit sa rentabilité opérationnelle et la croissance de sa rentabilité opérationnelle en cash. Pour autant, sur ce semestre, elle voit une variation négative de son besoin en fonds de roulement de moins 7,7 millions d'euros, qui est essentiellement portée par l'augmentation des stocks pour 6,4 millions d'euros. Et cette augmentation des stocks est directement en lien avec deux éléments, principalement la stratégie du groupe de sécuriser ses approvisionnements en matières premières, en composants dans un contexte que chacun d'entre vous connaît de tensions, voire de pénuries sur certains composants. Donc le groupe a fait le choix de stocker et de finalement d'augmenter le niveau de ses stocks pour sécuriser sa production. Et également, donc du fait de l'augmentation de l'activité, c'est le deuxième point qui explique la variation des stocks dans une moindre mesure, augmentation de l'activité, donc augmentation de la production et augmentation des encours. Ces cash flows opérationnels de 8,1 millions d'euros permettent au groupe aujourd'hui permettraient au groupe finalement d'autofinancer l'ensemble de ses capex, de ses investissements nets des sessions d'immobilisation. Et sur le semestre, on a une cession significative qui est la cession de l'ancien bâtiment de Cournon d'Auvergne, puisque Cantel Médical a inauguré sur ce semestre son nouveau siège. Donc, en termes de capex industriel, vous constaterez que les frais de développement de 3,6 millions d'euros représentent une part significative des capex du groupe. Donc, le groupe investit dans l'innovation, également dans ses installations techniques, dans une moindre mesure, et il restait, je dirais, un solde d'agencement à financer sur le nouveau bâtiment avant que les équipes puissent y entrer. Le solde des cash flows avant financement est légèrement positif. Donc, ce que je vous disais, le groupe, avec ses flux opérationnels, finance ses capex de la période. En termes de cash flow de financement, sur ce semestre, pas de grandes choses ou de grands mouvements. Les effets de variation du capital des emprunts, donc les encaissements mois et décaissements, est quasiment stable, mais reflète deux éléments. D'une part, de nouvelles lignes de financement mises en place, donc deux lignes de BPI pour 5 millions chacune, donc dont la vocation est de permettre au groupe d'améliorer régulièrement la maturité de sa dette, de la mettre plus en regard finalement de la maturité de ses projets d'investissement et notamment d'investissement incorporel, et le tirage des lignes qui avaient été mises en place pour financer les derniers agencements du bâtiment du médical. En contrepartie, le groupe a remboursé un tiers de ses prêts PGE, donc 5 millions d'euros sur les 15 millions octroyés l'année dernière, a remboursé également par anticipation les emprunts qui avaient été mis en place pour financer l'ancien bâtiment de Cournon d'Auvergne et à rembourser finalement les autres dettes selon l'échéancier qui était prévu. Globalement, le groupe génère des cash flows sur la période de moins 0,6, donc une consommation nette de cash de 600 000 euros avant prise en compte des effets de change, ce qui fait que net de ces effets de change, la variation de trésorerie est de 300 000 euros, de moins 300 000 euros. Donc, tout à fait peu significatif au regard du quantum de la trésorerie. Ces éléments d'explication sur la variation des cash flows, vous la retrouvez dans le dernier slide de la présentation financière qui vous permet de rapprocher ces éléments de la variation de la dette financière nette avec les éléments dont je vous ai parlé, les flux d'activité opérationnelle, donc une génération de cash de 8,1 millions d'euros, les capex industriels et les décaissements liés également aux croissances externes. C'est un point que j'ai omis de vous signaler dans le slide précédent. Il s'agit du versement du second terme de paiement dans le cadre du deal Allo Photonic. Donc, pour conclure sur cette partie financière, une situation de liquidité très solide, donc la dette financière nette, je ne reviens pas dessus, donc le gearing là que je vous ai calculé qui est de 5,8%, et s'agissant des leviers qui sont assortis à la dette bancaire obligataire du groupe, le groupe, on vous a indiqué les éléments, enfin, le calcul de ces ratios à mi-année, sachant que le groupe est largement en dessous ou au-dessus des seuils en fonction des ratios, mais donc a une marge de manœuvre et une marge de sécurité par rapport à ces ratios. Et je rappelle que le groupe a encore la capacité de mobiliser 105 millions d'euros de dette d'acquisition pour ses opérations de croissance externe future. Par rapport à cette situation de liquidité, par rapport au projet du groupe de nature croissance externe, aujourd'hui le plan d'amortissement de la dette brute du groupe est ne serait-ce que par rapport à sa capacité à générer des flux, des activités opérationnelles récurrents et solides, tout à fait en capacité de supporter le plan d'amortissement de sa dette, donc avec une maturité qui a été adaptée. Donc le groupe est sur ce premier semestre fort de ses résultats, fort de sa trésorerie et voit le second semestre et bien au-delà de façon tout à fait positive. Sur cette bonne note, je repasse la parole à Jean-Marc.
Merci Aude. Donc un des points que vous avez pu noter dans les résultats, c'est la rentabilité de Lumibird Medical. Je vous rappelle, Lumibird Medical, c'est ce que nous avons constitué, qui regroupe les marques Cantel Medical, Elex et Optotech. Donc ce groupe médical, quand on a commencé de le construire et quand on a intégré Elex à l'intérieur de ça, on avait un plan de synergie dont je vous ai déjà parlé, ces trois principales synergies, des synergies commerciales et marketing, des synergies techniques et des synergies opérationnelles. Donc, je ne vais pas préciser tout ce qui a déjà été réalisé parce que je crois vous l'avoir déjà dit. Et je vous reprécise aussi qu'en cours, il y a des choses qui sont importantes pour l'avenir. Rationaliser les gammes, l'implantation de Lumibird Medical dans beaucoup de pays. Il y a encore aujourd'hui dans le monde beaucoup de médecins qui n'ont pas accès à nos lasers ou à nos échographes. Et donc, ça, c'est une vraie stratégie de développement via Lumibird Medical. Et puis, ça passe par des stratégies d'enregistrement de nos produits dans tous les pays, avec de l'investissement derrière pour pouvoir réaliser tout ça. À côté de ça, on rentre vraiment maintenant dans le travail sur l'amélioration des marges. L'année 2020 et 2019 au départ et 2020 ont été des années, bien sûr, des années Covid. Là, aujourd'hui, on se prépare, on a amélioré les marges cette année, et on se prépare vraiment avec des plans très agressifs pour pouvoir travailler sur ces points-là. Et ça passe principalement et aussi par la rationalisation des briques technologiques par entité et pouvoir cross-fertiliser tout ça. Et le dernier point sur l'opération, on a commencé de progresser sur le ERP et derrière la rationalisation de la supply chain. Ce qu'on souhaitait, c'était vous présenter vous parler un petit peu sur le slide suivant de quelques exemples de réalisation pour vous montrer que les succès qu'on a eus aujourd'hui et qui se sont traduits dans les chiffres qu'Aude vous a présentés, on les retrouve avec différents exemples. Dès le départ, on vous avait parlé du fait que Elex avait des structures très fortes aux États-Unis et au Japon et que nous allions nourrir les forces de vente Elex avec les produits Cantel. Et là, on le revoit sur la vente d'échographie Cantel Medical. Aux États-Unis, les commandes, elles ont augmenté de 65% au premier trimestre. Et là, c'est un effet tout simple. On avait 4 vendeurs, on en a 16 maintenant, qui vendent la totalité des produits. Donc, automatiquement, on voit la progression des commandes et qui se réaliseront en chiffre d'affaires. Derrière ça, on a aussi un effet qui n'était pas forcément attendu dans un premier temps, mais on a un laser dont les ventes sont multipliées par 2 sur les 6 premiers mois de l'année. Vraiment, c'était un produit qu'on avait dans le portefeuille depuis quelques années, qui est un produit Optotech. Et ce produit-là, ses ventes ont doublé sur 6 mois et on peut continuer comme ça, principalement en Europe. C'est très intéressant. En termes de R&D, un point aussi, c'est qu'un lancement d'un nouveau produit qui va avoir lieu dans quelques semaines, il inclut ce laser des briques qui viennent à la fois d'Optotech, à la fois d'Australie, donc d'Elex, et avec des briques clermontoises françaises. Et là, ça va être intéressant parce qu'on a été chercher d'un côté le meilleur de ce qu'on trouvait dans chacune des entités, et pour en faire un produit qui va être très compétitif. Dans le même temps, souvent, je vous ai parlé d'OIM médical. Donc là, l'objectif qu'on a affiché maintenant, c'est de produire pour les autres, pas forcément dans le domaine de l'ophtalmologie, mais de produire soit des lasers, soit des échographes. Une des particularités de ce métier-là, c'est qu'il faut être très réactif, parce que généralement, c'est des gens qui ont besoin de se projeter. Et là, on a pu aujourd'hui, avec l'augmentation des capacités de R&D, aller solliciter les équipes australiennes, les équipes slovènes ou les équipes clermontoises pour accélérer, ce qui nous a permis, sur l'année 2020 et début 2021, de signer 3 contrats de développement. Donc, ce sont des contrats qui sont en cours de développement et qui vont générer, dans un avenir proche ou un peu plus lointain, des ventes de lasers que nous fabriquons et que nous allons enregistrer. Et là, on parle de domaine de la neurochirurgie, on parle de la dermatologie ou de l'oncologie. Et puis, pour terminer, vous avez la petite photo de quelque chose dont nous sommes très fiers. Donc, nous avons inauguré il y a maintenant 2 semaines notre nouveau siège social. Alors, vous voyez les volcans au fond, mais avant ça, donc, ça représente 6000 m². Il y a eu 7 millions d'investissements. Et ce siège-là, il va regrouper bien sûr les activités de l'Unibird Medical en termes de direction, mais surtout, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, les activités de R&D et de production. Et là, on sait qu'on a une plateforme pour le futur qui est intéressante, qui va pouvoir nous permettre d'accueillir à la fois des nouveaux clients OIM et de poursuivre l'amélioration de nos marges, de poursuivre la qualité de la production de nos produits. Et nous sommes très impatients de pouvoir l'utiliser à pleine charge. C'est un outil qui est vraiment incroyable et qui, encore une fois, qui nous permet d'accueillir des médecins. La semaine dernière, il y avait 8 médecins généralistes en formation, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Ils sont venus se former dans le cadre de la formation continue à l'utilisation de nos échographes. Là, on parle de développement en dehors de l'ophtalmologie auprès de la médecine générale avec la gamme de produits qu'on appelle le point of care. Donc, tout ça étant dit, vous avez quelques exemples de réalisation qui viennent, qui démontrent, je crois, qui commencent à démontrer ce que vous avez vu dans les chiffres. C'est la mise en œuvre rapide des synergies avec l'augmentation du chiffre d'affaires, l'écrasement des charges et donc une augmentation de la rentabilité. Donc, voilà un petit peu pour le médical. Donc, on va continuer sur le slide suivant en allant finalement se projeter sur stratégie et perspective. Et là, je vais laisser la parole à Marc.
Oui, merci Jean-Marc. Jean-Marc vous a bien présenté en fait la croissance en fait opérationnelle et industrielle que nous réalisons en fait sur le médical. Bon, il va sans dire que nous investissons également sur la partie photonique. Tous les sites en fait sont considérés en fait pour être plus performant et plus industrialisé, de façon à traiter de plus en plus de volume. Alors un point important en fait pour le groupe, pour continuer à soutenir en fait nos objectifs, pour continuer à poursuivre en fait la performance affichée ici, à la fois en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Il est assez fondamental de continuer à structurer en fait le groupe, le souhait en fait a été de constituer en fait une équipe de direction élargie, de passer à une nouvelle étape, de passer en fait si vous voulez d'un statut de grande petite entreprise à celui de statut de petite grande entreprise, avec encore une fois des objectifs importants de croissance. Alors vous avez ici en fait sur ce slide de 20 la description un petit peu du COMEX, la façon dont il est organisé aujourd'hui, une équipe de 10 personnes, avec une organisation matricielle. Les 3 pôles photonique, lidar et médical, donc qui sont qui sont pilotés en fait donc par Pierre-François Chenevier donc pour la partie photonique, Alan Boyd donc pour la partie lidar et Jean-Marc Jean donc pour la partie médicale. Donc et qui sont en fait donc supportés donc par des équipes services, donc la partie donc informatique et tout ce qui est régulation en fait donc qui se burn donc qui s'en occupe, la partie finance donc François Baroussel donc qui nous a rejoint depuis peu donc et donc la partie achat donc occupée en fait donc par Alexandre Billard et ensuite donc la partie RH donc par Pascal Guichard. Donc nous avons donc également donc représenter dans ce comité exécutif donc les programmes donc qui sont en fait donc les programmes industriels les plus importants en fait du groupe sur la partie photonique donc géré par Nigel donc Rulhouse et quelque chose qui nous semble extrêmement important en fait donc de traduire en fait donc dans notre travail donc c'est la transformation du groupe donc assurée en fait donc par Sonia Rutnam. Pourquoi en fait ce poste donc dans un contexte donc très international donc et très multiculturel donc il est vraiment important en fait donc d'arriver à faire donc la transition en fait sur l'ensemble du groupe donc elle aura donc pour mission en fait donc d'une part en fait de d'établir en fait donc des process donc et de les faire accepter donc sur l'ensemble des équipes et puis donc nous épauler en fait donc sur chacune donc des tâches donc et nous aider en fait donc sur chacun avec donc travailler avec chacun des membres de ce COMEX. Alors donc plus précisément donc vous avez un petit peu donc sur les pages suivantes donc les CV, enfin des expériences en fait donc de ce comité de exécutif donc je vais pas rentrer dans le détail mais voilà donc c'est pour nous vraiment une étape importante donc vous voyez en fait donc des gens donc de très bon calibre donc avec de belles expériences donc à la fois donc industrielles donc et d'entreprise donc également donc j'insiste bien là-dessus sur le fait que c'est un COMEX donc international donc avec des gens donc qui sont évidemment donc français mais également donc de façon essentielle donc des Australiens donc des Canadiens donc des Américains qui sont pas directement représentés ici une équipe très internationale et multiculturelle donc pour pouvoir passer en fait donc ces étapes donc futures de croissance et surtout en fait donc d'asseoir en fait donc le groupe sur un backbone donc très très solide. Alors bon, les objectifs sont rappelés ici donc les objectifs 2023 donc un doublement en fait, du chiffre d'affaires donc en 2023 donc avec une contribution organique donc de 8 à 10% et une croissance externe donc qui permet en fait de doper en fait donc ce chiffre d'affaires sur les trois marchés considérés. Ça c'est le premier objectif de croissance. Donc le deuxième donc la rentabilité donc traduite donc en EBITDA donc avec une EBITDA donc qui passera donc qui va s'échelonner entre 20 à 25% une plus proche donc possible de 25% donc en 2023. Donc voilà notre plan de marche donc vous avez ensuite donc sur les deux slides suivants donc peut-être donc je sais pas si c'est prévu de les montrer donc c'est pas grave donc rapidement la croissance de chiffre d'affaires donc sera soutenue par le fait que nous adressons évidemment donc des marchés extrêmement dynamiques dans les trois secteurs d'activité donc c'est déjà donc démontré en fait donc sur les chiffres du premier semestre mais que ce soit sur le médical donc sur le lidar donc sur la partie photonique nous avons en fait donc la chance d'évoluer en fait dans des marchés extrêmement dynamiques donc notre objectif donc est pour nous en fait de surpasser en fait donc ce que fait la concurrence donc de façon à prendre donc les parts de marché et sur la partie rentabilité donc là il y a aussi beaucoup de de sujets que nous traitons. Évidemment, le chiffre d'affaires est extrêmement contributeur à l'EBITDA, dans la mesure où nous sommes capables de maintenir des marges brutes au-delà de 60%. Ça, c'est la première contribution. Mais maintenant, avec une équipe de direction élargie, nous allons pouvoir aussi renforcer en fait tout ce qui concerne les efforts de contrôle industriel, les contrôles de coûts, l'optimisation en fait des ressources, pour éviter les duplications, travailler sur travailler plus rapidement sur nos projets de verticalisation, qui sont aussi très contributeurs en marge, puisqu'en fait nous fabriquons les composants nous-mêmes. Voilà, beaucoup de sujets qui seront abordés en fait dans les mois maintenant à venir. Voilà, pour cette présentation, je pense qu'on peut passer maintenant aux questions. Je vais passer la parole à l'opérateur. So, questions, if you have any questions.
Ladies and gentlemen, at this time, we will begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star followed by one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star followed by two. If you're using speaker equipment today, please lift the handset before making your selections. Anyone who has a question may press star followed by one at this time. One moment for the first question, please. First question is from the line of Laurent Parmentier from Chaussée Gestion. Please go ahead.
Oui. Laurent. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Vous m'entendez bien?
Oui, on vous entend bien, Laurent.
Très bien.
Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, félicitations pour ces excellents résultats. J'ai trois questions, si vous permettez. J'aurais voulu retrouver les marges en fait sur le médical et photonique pour qui étaient en 2019 et non pas 2020. Ma deuxième question, c'était d'avoir un peu plus de précision sur ce que vous appelez le retour en développement pour une nouvelle génération de LIDAR ADAS. Et puis, la troisième, c'est de savoir où en sont les discussions avec Safran et MBDA au sujet de SILAS. Ouais. Alors, je vous remercie beaucoup.
Marc va répondre sur les la deuxième et la troisième question pendant ce temps que Aude recherche éventuellement l'information pour 2019.
Non, c'est bon, j'ai l'information. C'est bon. Alors, j'ai les données 2019, j'ai pas des données 2019 pro forma. C'est pour ça qu'on les a pas données, parce qu'ils, voilà, pour être
d'accord.
Tout à fait juste. Mais ceci étant, donc, sur le périmètre dit historique en 2019, les marges sur la photonique, les marges sur achat étaient de 60,6% et sur le médical, on était à 56,5%.
En fait, je voulais, excusez-moi, je n'ai pas précisé, comme c'était plutôt les marges d'EBITDA et d'EBIT.
Pardon. Alors, les marges d'EBITDA, on était sur la photonique à 14% et en résultat opérationnel courant, on était à moins de 5%, 4,8%. Et sur la division médicale en 2019, en EBITDA, on était à 11,2% et en résultat opérationnel courant, donc on va dire EBIT, 5,8%.
Parfait. Merci, Aude. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Voilà. Donc, sur la partie, en fait, donc ADAS, en fait, donc la nouvelle génération, on fait référence, en fait, à ces lasers, enfin, qu'on appelait low cost, en fait. Donc, c'est la nouvelle génération, en fait, de lasers LIDAR, en fait, qui permettent, de réduire très fortement, le coût, en fait, de ces systèmes, pour adresser, en fait, les marchés gros volume, les marchés, en fait, de ce qu'on appelait, en fait, l'ADAS. Donc c'est à ça que l'on fait référence. Alors bon, enfin nous sommes en fait aujourd'hui en fait sur des phases de qualification, puisqu'en fait les designs avaient été faits l'an dernier. Donc nous avions expliqué en fait que en 2020 nous n'avions pas eu de chiffre d'affaires, puisqu'en fait nous étions retournés en fait si on peut dire, sur les paillasses, donc pour développer en fait donc cette nouvelle génération en fait donc de laser. Et bon, cette année en fait donc on a à nouveau en fait donc en déploiement, mais bon, pour de la qualification, donc c'est pas encore donc de très très gros volumes, mais voilà, ce sont des projets en fait donc qui sont extrêmement actifs, donc sur lequel donc il y aura aussi une contribution évidemment au chiffre d'affaires. Il y a quand même quelques centaines de produits qui sont livrés. Donc et ce sont en fait donc des, voilà, c'est la nouvelle génération de lasers, donc qui sert en fait donc on a besoin de la DAS, mais qui servira aussi donc à terme l'ensemble en fait donc de nos designs, donc enfin pour ce qui concerne en fait donc les technologies de laser à fibre, puisqu'en fait donc ce sont des plateformes, donc des composants génériques en fait donc qui vont pouvoir être utilisés sur l'ensemble donc des gammes, donc qui sont aussi ma contributeur en fait donc très favorablement en fait pour augmenter en fait donc les marges donc de l'ensemble donc de notre activité de laser à fibre. Voilà, bon, je sais pas si ça répond à votre seconde question.
Si, je vous remercie.
Oui,
beaucoup.
Voilà. Et alors sur la troisième, donc sur le projet en fait donc de Silas, écoutez, bon, les choses sont toujours donc en cours de discussion, donc nous avons en fait donc bon, comme vous le savez en fait donc racheté en fait donc les 37% en fait donc qui étaient détenus historiquement donc par Areva, donc nous sommes aujourd'hui actionnaires donc minoritaires avec donc une minorité de blocage donc de la société Silas, donc et il reste 63% donc qui sont toujours détenus en fait donc par Ariane Group, donc évidemment notre ambition est de continuer en fait donc notre progression donc sur la montée au capital, de façon à soit faire une acquisition complète, donc soit au moins donc d'être actionnaire majoritaire.
Ok, bon, je comprends que vous ne puissiez pas en dire plus, mais voilà. Merci beaucoup. Mais je vous remercie, bonne soirée.
Merci à vous. Next question, please.
Next question is from the line of Christian Malguet from Uzé Gestion. Please go ahead.
Oui, merci. Bonsoir aussi. Bravo pour toute cette activité, ces développements. Juste une question par curiosité sur le détournement anglais. Vous avez pu avancer, récupérer quelque chose, clarifier la situation?
Bon, clarifier. Enfin, malheureusement, c'est très simple. Donc, on va vraisemblablement rien récupérer. Donc,
il n'y a pas d'assurance.
Non. Donc, ça c'est extrêmement frustrant de voir que bon, toutes les tentatives qui ont été faites donc de notre côté, donc pour, d'une part donc récupérer en fait donc enfin retracer en fait donc bon, la fraude. Ça a été fait, donc faire les enquêtes nécessaires, ça a été fait, et puis recontacter les banques, donc pour mettre leur responsabilité en jeu, donc n'ont pas aujourd'hui donc porté leur fruit, malheureusement, donc bon, c'est assez peu probable aujourd'hui, donc voilà, qu'on récupère quoi que ce soit, donc malheureusement suite à cette fraude.
Ça avait été totalement provisionné l'année dernière, je crois.
Oui, ça avait été totalement improvisé.
Tout à fait.
Ok, parfait. Ben, merci pour le reste. Tout m'a l'air d'aller très bien, donc bravo.
Ben, merci. Merci à vous. Next question.
Next question is from the line of Alessandro Cuglietta from TP ICAP Midcap. Please go ahead.
Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend?
Oui. On vous entend bien.
Ah, parfait. Bonjour à tous. Et bravo encore pour les résultats et ces beaux accomplissements. Moi, j'avais juste une question sur le plan de la rentabilité, notamment celle au niveau de l'EBITDA de la partie médicale que je trouve très bonne. Et je pense me souvenir qu'il y a une saisonnalité plus forte sur le S2. Donc, je voulais savoir si vous pouvez nous donner peut-être un input sur l'orientation des marges pour la fin de l'année. Et est-ce qu'on s'attend à ce qu'elle soit même meilleure que ce qu'on voit au S1 en fait?
Je réponds juste à pour une partie et je laisserai Aude compléter. Donc, il est clair que le chiffre d'affaires, donc comme je disais tout à l'heure, donc avec des baumes qui sont, enfin des marges brutes donc qui sont extrêmement importantes, donc et fortement contributeurs en fait donc de la marge au final. Donc et vous savez en fait que sur en général le deuxième semestre, donc c'est toujours mieux que le premier semestre, donc en termes de chiffre d'affaires. Donc donc nous avons un objectif, donc évidemment de faire progresser cette marge, donc de continuer à progresser, donc au moins par ce biais-là. Donc et je vais laisser Aude donc peut-être donc compléter la réponse.
Oui, sur l'évolution de la marge, soit par division, soit groupe, on a toujours des effets de saisonnalité et c'était le cas l'année dernière, c'est encore le cas l'année d'avant au semestre. On peut constater des effets de taux de marge qui pourraient potentiellement être supérieurs au 30 juin versus la position que l'on a au 31 décembre. Sachant que tendanciellement, en trade, le groupe maintient déjà son niveau de marge. Alors, si vous me parlez de marge sur achat consommé ou sur excédent brut d'exploitation, mais déjà, effectivement, comme dit Marc, comme une bonne partie ou l'élément catalyseur de l'amélioration de l'excédent brut d'exploitation, il est très fort sur la partie chiffre d'affaires et donc sur marge sur achat consommé, le groupe s'attache à maintenir déjà le niveau qu'il a en données annuelles, mais voire de l'améliorer au travers de tout ce que Marc a pu dire sur le plan, effectivement, de rentabilité. Pour être plus concrète maintenant, oui, pardon.
Non, j'écoute.
Pardon. Donc sur le S2, oui, on vise sur la partie médicale tendanciellement une amélioration de la marge, mais qui est aussi liée donc au développement de l'activité, aux effets des synergies et donc avec.
Et puis je rajouterai une chose, c'est que au S2, et là c'est un commentaire général, les principaux congrès repartent. Le congrès européen a lieu en octobre, le congrès américain a lieu en novembre. On va conjuguer ça au lancement, et on l'a annoncé, au lancement de notre produit phare au Japon, que j'ai précisé tout à l'heure. Donc tout ça, ce sont des éléments positifs pour atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires. Et que ça soit aux États-Unis ou que ça soit sur l'échographie, c'est aussi des choses positives pour le taux de marge, quoi.
Tout à fait, sur le taux de marge sur achat consommé. Alors, ce taux de marge sur achat consommé, sur la fin de l'année, moi, c'est la directrice financière qui vous parle, je reste relativement prudente sur la capacité à générer le même niveau de taux de marge sur achat consommé qu'on a constaté sur le S1, mais c'était déjà le cas l'année dernière et c'est le cas l'année précédente. Pour autant, on vise une amélioration par rapport à ce qui était constaté l'année passée en annuel.
Merci.
Je vais répondre à votre question. Si je n'ai pas répondu, surtout n'hésitez pas.
Non, c'est très clair. Merci beaucoup.
Next question, please.
Next question is from the line of Jeremy Salé from Portsmouth Park. Please go ahead.
Oui. Bonsoir à tous. J'avais juste une petite question concernant l'amélioration des marges d'Elex. Je voulais que vous reveniez sur les leviers parce que si je regarde au niveau du chiffre d'affaires, j'ai l'impression qu'il y a une forte baisse du chiffre d'affaires comparé au chiffre qui a été indiqué l'année dernière. Du coup, je voulais savoir est-ce qu'il y avait un élément qui, la baisse du chiffre d'affaires qui peut expliquer la nette amélioration des marges. Et je voulais également savoir si, en termes de saisonnalité, est-ce que chez Elex, c'est un peu moins marqué historiquement que le comptable médical. Merci.
Alors pas du tout, c'est pas du tout marqué, mais il faut faire attention quand on compare les choses comme ça. Et Aude, tu me corrigeras si j'ai tort, mais je pense que il n'y a pas de baisse majeure du chiffre d'affaires d'Elex. Après, on peut avoir éventuellement certains produits d'Elex. Je parle de produits qui ont été commercialisés par les créneaux Cantel Médical. Donc, il faut regarder la performance globale et faut faire attention à ce type d'analyse-là.
Typiquement, ça c'était tout à fait vrai. Ce qui était précédemment du, enfin, en 2020 du chiffre d'affaires hors groupe pour le périmètre Elex, pour partie aujourd'hui est devenu du chiffre d'affaires intra-groupe parce que c'est passé par, par le réseau Quantel Medical et inversement d'ailleurs. Hein, inversement. Ouais, inversement. Et là, en l'occurrence, beaucoup plus dans un sens que dans l'autre.
Voilà. Et donc, quand on parle donc de synergie, c'est exactement ça. Vous avez des produits, des, je répète, hein, des produits, je vous rappelle qu'on a fermé, on a fait le choix de fermer certaines filiales Elex, notamment l'Allemagne et la France, qui ont été repris par les réseaux de distribution Quantel Medical. Donc, c'est vraiment l'analyse globale du chiffre d'affaires qu'il faut regarder. Et quand on regarde simplement division par division, enfin, nom de marque, entité juridique par entité juridique, c'est un peu plus compliqué. Donc, le commentaire global, c'est dire non, il n'y a pas eu de baisse majeure du chiffre d'affaires chez Elex. Même au contraire, c'est quand on regarde, il y a les effets de change en plus, mais quand on regarde division par division, pays par pays, produit par produit, on s'aperçoit qu'on est sur une dynamique positive pour Elex. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, la saisonnalité des produits Elex avant la fusion était aussi très marquée sur la fin de l'année. Même s'ils avaient, eux, une année, il y a l'effet de l'Australie éventuellement parce que ils étaient à non pas sur du calendrier, enfin sur du calendrier comme nous, mais ils étaient à une clôture fin juin. Donc de temps en temps, ils avaient un quatrième trimestre pour eux qui était avril, mai, juin, qui était un petit peu plus fort parce qu'ils poussaient un peu notamment en Australie. Mais on ne retrouve pas la même chose aujourd'hui. Donc on est sur les mêmes effets de saisonnalité et encore une fois, on regarde la performance globale.
Ok, merci beaucoup.
Next question, please.
Next question is from Eric Blaine from Finance Connect. Please go ahead.
Oui, bonjour, bonsoir plutôt.
Bonsoir.
Je suis désolé, j'ai raté les 5 premières minutes d'Aude, mais je voulais vous poser la question sur les achats consommés. Vous paraissez extrêmement serein, vous avez un stock, la situation perdure. Comment vous voyez l'évolution des prix et des pénuries sur vos achats? Et ma seconde question, c'est la saisonnalité est favorable, mais est-ce que pour autant, sur les marges opérationnelles, on risque pas d'avoir des relances de dépenses que vous n'aviez plus depuis un certain temps? Je pense justement aux salons ou de choses comme ça.
Aude, je te laisse commenter ou...
Oui. Je vais déjà répondre à la deuxième question et je reviendrai sur la première. Concernant les relances de dépenses, alors oui, effectivement, les dépenses de salon par rapport à 2020, évidemment, vont être supérieures. C'est déjà le cas sur le premier semestre, notamment sur la division médicale. Du coup, un peu plus de frais de déplacement également parce que on va pouvoir, et c'est important dans un groupe très international et avec des filiales un petit peu partout dans le monde, effectivement, de pouvoir circuler. Pour autant, aujourd'hui, dans nos anticipations et dans nos prévisions d'atterrissage, ça reste maîtrisé. Ça reste maîtrisé aussi parce que le Covid a permis d'imaginer d'autres façons de travailler, d'autres façons de réaliser ça. Alors évidemment, quand il y en a, il faut du physique, mais néanmoins, il y a des dépenses qui sont faites autrement. Donc oui, il y aura une augmentation. Pour autant, elle reste maîtrisée et de toute façon parfaitement absorbée par la croissance de l'activité. S'agissant du sujet que vous évoquez sur finalement l'évolution des achats consommés dans un contexte de pénurie et de renchérissement du coût et des matières et des composants. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, déjà, on a stocké avec donc ça nous a permis effectivement de tenir compte des prix de premier semestre plutôt que des prix de second semestre. Deuxième élément, aujourd'hui, les augmentations qu'on a pu constater sur les composants et sur la matière sont répercutées dans les contrats clients. Donc aujourd'hui, oui, j'aurai peut-être une augmentation des achats consommés, pour autant j'aurai en parallèle une augmentation de mon chiffre d'affaires. Donc en termes de marge opérationnelle, aujourd'hui on n'anticipe pas d'effet significatif sur ce sujet-là.
D'accord. Est-ce que vous auriez une idée de l'inflation des produits sur le premier semestre et ce que vous anticipez sur la suite? L'ordre d'idée, ce n'est pas un chiffre précis parce qu'il y a beaucoup de références, j'imagine. C'est compliqué.
Oui, voilà. Je vous dirai des bêtises. Je vous dirai des bêtises. En revanche, effectivement, je veux bien retourner à mes tablettes et vous trouvez ça. Mais là, aujourd'hui, enfin, là où on se parle, je vous dirai une bêtise.
Donc, ce sera intéressant pour comprendre, parce que ça peut, ça favorisera votre croissance organique, entre guillemets.
Bien sûr.
Et juste une dernière chose, on est bien d'accord que le CA 2023, c'est deux fois 125 millions, grosso modo.
Oui. C'est ça, oui. La base de chiffre d'affaires publié l'année dernière, qui était 126,7, voilà.
Et là, vous dites que c'est tout compris, c'est pas en organique.
Tout à fait.
C'est-à-dire que là, on aura mécaniquement plus de chiffre d'affaires dû à la consolidation en année pleine de vos acquisitions.
Oui.
D'accord. Okay.
C'est ce qu'on voit, ce sera à la fois les effets de la croissance organique, des croissances externes réalisées en 2020 et futures.
Et dernière petite question, votre acquisition, là où vous avez pris 34%, vous allez la consolider par mise en équivalence, j'imagine?
Eh bien, ça dépend un petit peu de ce qui... Alors déjà, effectivement, dans le principe 37%, on est dans le seuil supérieur à 20% qui, de fait, vous induit une influence notable. Maintenant, il faut regarder les conditions aujourd'hui et des statuts et d'une place ou non au conseil d'administration qui vont donner des éléments de contexte de fait qui pourront éventuellement décider si oui ou non on est sur de l'en équivalence. Aujourd'hui, pour être très honnête, je n'ai pas cette réponse et si on vous parlait à la spécialiste de consolidation que je suis, moi je vous dirais aujourd'hui, je ne suis pas certaine d'être dans la mise en équivalence. Maintenant, ce ne sera pas mon opinion de spécialiste qui prévaudra, c'est l'analyse des éléments de contexte. Et en fonction des discussions qui sont en cours et dont Marc a parlé, mais effectivement, on penchera d'un côté ou de l'autre.
Et vous avez payé combien les 34%?
C'est une information qu'on n'a pas divulguée et qu'on ne souhaite pas divulguer, si je ne m'abuse. Hein.
Vous l'avez acheté après le 30 juin.
Non,
Marc.
Non, c'est on a, après le 30 juin, c'est tout à fait, au mois de juillet.
Le prix n'est pas communiqué.
Et on peut avoir aucun chiffre sur l'ordre d'idée de cette opération? Je veux dire, ça remet en cause votre capacité d'endettement ou est-ce que c'est relativement marginal?
Ça ne remet pas en cause notre capacité d'endettement.
Et si vous le consolidez, ça fait combien de chiffre d'affaires? Je suis un peu néophyte sur cette acquisition, donc je ne sais pas trop.
Si on le consolidait selon la méthode de la mise en équivalence, de toute façon, on constaterait non pas du chiffre d'affaires et des éléments de rentabilité opérationnelle, on aurait une ligne en bas de bilan juste avant après le résultat des entités intégrées, la cote-part, donc 37% fois le résultat net qui dégage, retraité selon les mêmes normes que nous, etc. etc. Oui. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais ça ne viendrait pas contribuer ni à la rentabilité opérationnelle ni au chiffre d'affaires.
Oui, mais c'est pour comprendre un petit peu l'ampleur de l'enjeu. Je veux dire, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, dans les notes, vous êtes obligé de mettre les principaux éléments de gestion des sociétés mises en équivalence. Donc, on finira par voir tout ça. De toute façon, c'est une question de temps.
Mais... on ne cherche pas à le casser non plus. Hein. J'ai pas de problème avec ça.
Vous ne pouvez pas nous donner quelques éléments qualitatifs, d'avoir un peu une idée.
À ce jour, c'est un peu tôt.
Ok, écoutez,
sur le chiffre d'affaires donc de Silas, enfin, c'est public, hein, donc vous pouvez retrouver les comptes de la société.
Oui, mais on ne sait pas si c'est consolidé ou pas, si c'est...
Donc autour de 28-30 millions d'euros. Ouais.
D'accord, donc c'est un enjeu qui n'est pas colossal, quoi. Ok, merci.
Next question, please.
Next question is from the line of Stéphane Soumar from LBO France. Please go ahead.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Oui, j'avais deux petites questions, en fait trois, mais disons deux. Juste pour revenir sur l'histoire des stocks, faut-il anticiper en termes de niveau sur d'ici la fin de l'année? Est-ce que ça va vous permettre, est-ce que vous allez recontinuer à constituer des stocks un peu de précaution comme vous l'avez fait ou pas, ou est-ce que vous allez déstocker? Et j'avais une petite question, un peu juste un commentaire. Donc on constate qu'il y a une nouvelle division qui s'appelle LIDAR, qui, si je ne me trompe pas, qui n'existait pas en tant que telle avant. Ça veut dire que vous allez nous communiquer du chiffre d'affaires et des performances opérationnelles pour détailler pour cette opération, pour cette division?
D'accord. Alors, peut-être sur la partie stock, En fait, bon, sur le premier semestre, donc on a essentiellement en fait donc anticipé donc les besoins pour cette année, donc pour bon déjà assurer en fait donc bon, l'activité en fait donc de 2021. C'est-à-dire que bon, donc il n'y aura pas, donc on ne prévoit pas en fait donc d'augmentation, de continuer à augmenter les stocks. Donc bon, on a quand même bien anticipé, donc mais on a une vision en fait donc sur nos appros pour une couverture en fait de cette année, mais qui va même au-delà. Donc il n'y aura pas en fait, donc nous n'anticipons pas en fait donc d'accroissement en fait de stock en fait donc pour le deuxième semestre. Alors, sur la partie LIDAR.
Oui, c'est juste, vous voyez qu'il y avait une division à part entière qui apparaissait
oui, alors,
dans la présentation. Ça veut dire que vous allez commencer à communiquer de manière un peu séparée là-dessus?
Alors aujourd'hui, donc le traitement qu'on en fait, on reste donc intégré en fait donc à la partie photonique. C'est-à-dire que bon, là en fait ça a été présenté ici en fait donc pour vous indiquer comment a été constitué le COMEX. On fait apparaître en fait donc une division LIDAR à part entière, donc sur un plan purement opérationnel, si vous voulez. Mais aujourd'hui en fait donc on ne détaille pas donc dans la partie finance, donc en tout cas à l'externe, ça restera donc dans la partie photonique. Donc c'est encore un petit peu trop, il faut encore attendre un petit peu donc pour que, un peu comme pour le médical, donc on atteigne en fait donc une certaine masse donc critique pour pouvoir en fait donc justifier en fait donc de présenter des comptes séparément. Donc aujourd'hui on préfère donc pour des raisons de simplicité en fait donc on intégrer en fait donc un pôle photonique.
Et peut-être, si je peux me permettre, une dernière question très rapide sur le il y a bien le cas, il faut prendre en compte le cash out de SAB au second semestre, hein, c'est ça?
Non. Au niveau de SAB, aujourd'hui, les prévisions donc de reprise de l'activité SAB, donc de télémètre, c'est plutôt S1 2022.
Ah d'accord, ok. Ok, bon voilà, je n'étais pas sûr. Pardon? Et oui, par contre, on aura celle de Silas, oui, effectivement, pour faire la suite de la question précédente.
Oui,
exactement.
Next question.
As a reminder, if you'd like to ask a question, please press star followed by one on your touch tone telephone. Next question is from the line of Dixon Mutum from Pronatar Asset Management. Please go ahead.
Bonsoir, vous m'entendez?
Oui, on vous entend bien.
D'accord. Écoutez, tout d'abord, merci pour cette présentation. Félicitations pour ce résultat.
Excusez-moi, si vous pouvez juste donc parler un tout petit peu plus fort, parce que c'est vrai que c'est un petit peu bas.
Là, c'est mieux?
Oui, voilà, très bien, oui. Oui.
En fait, je disais que lors de vos résultats, en fait, sur le premier trimestre 2021, vous aviez parlé en fait d'une possibilité pour effectuer d'autres deals que l'ophtalmologie, notamment dans la cancérologie et l'urologie. Est-ce qu'il y a du coup de nouveaux éléments concernant ces deals?
Oui, alors aujourd'hui, on a un métier qui est le laser. Donc, clairement, on a développé un outil qui nous permet de développer, d'enregistrer, de fabriquer des produits dans différents domaines à partir du moment où il y a un laser au centre de ça ou un échographe. Donc, il y a beaucoup de marchés médicaux qui utilisent ces produits-là. Les marchés phares sont la dermatologie, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a l'ophtalmologie, bien sûr, sur lequel nous sommes. Et puis après, il y a des marchés comme l'urologie ou comme l'oncologie, où là, le laser va intervenir en urologie dans le traitement de la prostate ou dans le traitement des calculs rénaux. Et en oncologie, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de la photothérapie dynamique, de la PDT. Et donc là, on va activer des drogues avec des lasers. Donc dans tous ces projets-là, nous avons soit des ambitions de partenaires, comme je l'ai précisé tout à l'heure, de fabriquer pour les autres, et en fonction des opportunités qui pourraient se présenter, on pourrait être amené à regarder si on souhaite se développer sous la plateforme LumiBird Medical dans d'autres métiers que de l'ophtalmologie. D'accord. Et ça peut être l'urologie, ça peut être l'oncologie, ça peut être plein de choses. Donc aujourd'hui, nous sommes acteurs principalement comme fournisseurs, mais à travers le potentiel, à travers les opportunités qui se présentent, on peut être amené à regarder des opportunités dans ces domaines-là.
D'accord. Donc vous restez ouvert, mais pour l'instant, il n'y a pas de cible définie, c'est ça ?
Non, il n'y a pas de cible identifiée précise, mais on reste complètement ouvert à tout ça.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci. Next question.
There are no further questions at this time, and I would like to hand back to Marc Lefloyd for closing comments. Please go ahead.
Ok, bah écoutez, donc merci beaucoup en tout cas de votre attention et de votre intérêt en fait donc pour notre projet LumiBurn. Donc pour conclure, nous sommes donc évidemment confiants en fait pour la suite de cette année, et puis pour atteindre nos objectifs de 2023. Donc nous continuons la construction du groupe, aussi avec une nouvelle équipe, comme vous l'avez vu, une équipe plus étendue, de façon en fait à franchir les prochaines étapes dans les meilleures conditions qui soient. Merci à vous tous de votre soutien et de votre intérêt. Bonne soirée.